L'Union Populaire et la France Insoumise publient leur programme à 5 mois de la présidentielle. L'avenir en commun. Même titre, même format qu'il y a 5 ans, même éditeur, le seuil. Quelques amendements notables, on va en parler. 3 € en librairie. Alors, quelle décision Jean-Luc Mélenchon et les hommes et femmes qui l'accompagnent prendraient-ils s'ils étaient élus? Le contexte reste marqué par la pandémie. Progression fulgurante de la 5e vague, dit le gouvernement. L'actualité sont aussi les tensions sociales en Guadeloupe. Au-delà des informations de ce début de semaine, ce programme, l'avenir en commun, prévoit toujours la 6e République. Contre l'abstention, le vote obligatoire et d'autres mesures pour l'accompagner, une bifurcation écologique, la nationalisation, collectivisation, gestion publique des biens communs comme l'eau, le service et l'investissement public comme réponse à beaucoup de questions. Cela a un coût. Il est prévu un plan d'investissement de 200 milliards d'euros. Bonjour Clémence Guettet.
Bonjour.
Vous êtes co-responsable de ce programme, secrétaire général du groupe La France Insoumise également à l'Assemblée nationale. 01 45 24 7000 est l'appli France Inter. Pour vos questions à vous, auditeurs de France Inter, à Clémence Guettet, le nombre de cas quotidiens de Covid, Clémence Guettet, a presque doublé en une semaine, de 10 à 18 000 en moyenne sur 7 jours. Page 72 du programme, abroger les lois sur l'état d'urgence sanitaire, abroger le pass sanitaire. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, il n'y a pas de pass sanitaire, même dans le contexte actuel.
Oui, bon déjà vous l'avez lu attentivement, je vous en remercie.
Je vous en prie, c'est le boulot.
Non, oui, en effet, on abrogera le pass sanitaire parce qu'on pense que c'est une mesure au mieux inutile, au pire qui est dangereuse. Ça crée une illusion d'immunité. Les gens pensent qu'ils sont protégés avec ce pass sanitaire, alors que la seule chose que ça instaure, c'est une société du contrôle avec des données personnelles qui auront un usage qu'on ne maîtrise pas encore. Et ce que nous on dit, c'est que par exemple, l'outil central et utile pour lutter véritablement contre cette épidémie et sa propagation, c'est le test. Qu'est-ce qu'a choisi de faire M. Macron ? Il a choisi de le rendre payant.
C'est le test et pas le vaccin ?
C'est les deux, évidemment. La politique vaccinale, elle est indispensable pour lutter contre ce virus, l'immunité collective. Nous sommes favorables au vaccin. Il n'empêche que cette politique de la matraque et du contrôle, elle ne porte pas ses fruits. Aujourd'hui encore, il y a des centaines de milliers de personnes dans notre pays, dont des personnes âgées très vulnérables qui ne sont pas vaccinées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de politique de conviction, d'explication. Comme le disait l'OMS, il
faut convaincre,
il ne faut pas
contraindre. Vous trouvez qu'il n'y a pas eu de politique de conviction sur la vaccination ?
Non, il y a une politique de chantage absolu. Macron débarque dans nos télévisions, nous dit ce qu'on va devoir faire le lendemain, alors que ses ministres, des semaines plus tôt, disaient l'inverse. Sur le pass sanitaire, par exemple, la présidente de la commission des lois disait « Pour préserver nos libertés publiques, on ne le mettra pas dans les cafés, dans les théâtres, etc. » Véran arrive ensuite et nous dit « Ah ben si, en fait, ça va être obligatoire. »
Donc même aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir, même aujourd'hui avec 20 000 cas par jour, on irait librement au restaurant, dans les théâtres, dans les cinémas, sans aucun contrôle.
Nous avons proposé à de multiples reprises à l'Assemblée nationale, nous avons proposé des méthodes, des outils. Par exemple, l'instauration de purificateurs d'air, notamment dans les écoles, parce qu'on sait que c'est un bon moyen de lutter contre le virus.
Jusque-là, ça répond pas à ma question.
J'y viens. Par exemple, la société du roulement. Faire en sorte que tous les gens ne se trouvent pas au même endroit, au même moment. Et puis ensuite, évidemment, une politique de conviction sur le vaccin. J'en parlais, c'est indispensable. Il faut aller, par exemple, déployer les médecins généralistes pour aller à la rencontre des gens et leur expliquer en quoi c'est important de se faire vacciner.
Honnêtement, quoi qu'on pense d'Emmanuel Macron, l'intervention du mois de juillet a quand même eu beaucoup d'effets. La France est un des pays où le taux de vaccination des adultes est le plus élevé. Vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas marché, ça.
Oui, et on voit que les gens qui se sont rués sur Doctolib pour avoir des doses de vaccin, c'est des gens comme moi, par exemple, jeunes, plutôt jeunes, en bonne santé, qui ne voulaient pas être privés de vie sociale pendant l'été et qui se sont dépêchés d'aller le faire. J'en reviens aux personnes âgées très vulnérables.
75% des adultes,
elles ne se sont pas ruées, elles, sur Doctolib.
13%
cette politique sanitaire,
plus de 80 ans.
Elle n'est pas pensée de manière cohérente et logique. Et par ailleurs, j'en reviens à la façon dont les décisions sont prise, c'est un conseil de défense sanitaire à huis clos. Et que fait Macron ? Il s'exonère le plus possible de débats au Parlement et le pass sanitaire a été prolongé jusqu'au mois de juillet pour éviter au mois de février de tirer le bilan et de parler à nouveau de cette politique sanitaire.
Autre sujet, donc pas de pass sanitaire si vous étiez au pouvoir. Autre sujet, Clémence Guettet, la Guadeloupe, plus de 80 commerces pillés, situation de guérilla, situation très explosive, dit le président de la République. Alors au-delà des mesures sociales pour la Guadeloupe, encore une fois, un Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, 80 commerces pillés, que faites-vous ?
Alors pas au-delà des mesures sociales, parce que c'est là le
non, mais il y a une situation problème. D'urgence à laquelle il faut répondre, et ensuite on vient au social. Je vais pas éluder le social. Hein. Mais ma question c'est, vous avez des manifestations qui virent au pillage, 80 commerces pillés, vous faites quoi ?
Alors avant Je reviens quand même, parce que cette crise en Guadeloupe, ça fait 4 mois que les gens se mobilisent, descendent dans la rue et crient à quoi ? Le scandale du pass sanitaire, de leur point de vue, là j'en reviens à ce que je disais sur la politique d'explication qui doit être menée.
Et on est d'accord qu'il faut dire aux Guadeloupéens de se faire vacciner, si je suis ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Il faut leur conseiller, bien évidemment. On sait que ça permet d'éviter les formes graves. Nous sommes convaincus par la politique de vaccination, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais deux, il faut des mesures de lutte contre la vie chère, parce que ce qui est dénoncé par ces gens qui descendent dans la rue, c'est aussi la précarité extrême. Et puis troisième point, la situation de l'hôpital public. Quand on envoie des forces de police dans les hôpitaux pour dire aux soignants, pour matraquer les soignants, ça n'est pas une façon d'apaiser la situation. Et donc non, envoyer le GIGN et le RAID au dernier moment comme ça a été fait, c'est pas la politique qu'on aurait menée, bien évidemment.
Et vous dites quoi aux commerçants, les bijoutiers, les marchands d'articles de sport, de téléphones qui se sont fait piller leur magasin ? Vous leur dites quoi ?
Mais nous, on déplore ces violences. Sauf que si vous voulez, il faut prendre la situation à la racine. Il faut écouter les acteurs politiques guadeloupéens. Il faut écouter les syndicalistes et ce qu'ils disent depuis des mois. Donc, ça n'est pas... Évidemment, on se retrouve dans une situation extrême avec de la violence. Elle aurait pu être évitée. Il faut du dialogue social. Macron agit là, en Guadeloupe, comme il a agi avec les Gilets jaunes, où tout a démarré par une colère sur une question de fiscalité, pour finir par une revendication démocratique plus large.
Même s'il y a des dizaines de soignants qui sont venus de métropole et que la situation a été largement prise en compte et prise en charge, la situation sanitaire.
Bah alors parlons de la situation de l'hôpital public. Cette année encore, 1 milliard de moins dans le budget pour l'hôpital public français. Nous sommes le seul pays européen, je crois, alors des miettes, évidemment, des centaines
d'euros.
Vous dites
des miettes.
Mais oui, des miettes,
300
évidemment.
300 comptant hausse de salaire et primes.
Les soignants en France sont extrêmement mal payés. Et pire que ça, il faut parler de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, parfois, vous avez une aide-soignante pour 20-25 patients. Elles ne peuvent plus soigner dans de bonnes conditions. Il y a une souffrance à l'hôpital public en France qui est absolument terrible. Première chose qu'on demandera... un moratoire sur les fermetures de lits. Pourquoi ces lits ont-ils été fermés ? Pourquoi on continue de les fermer pendant cette crise sanitaire alors qu'on sait qu'on va se retrouver confronté à cette 5e vague dont vous parliez ?
Allez, le programme, il y a beaucoup de questions au standard. Catherine qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, moi c'est par rapport au vote obligatoire. Je suis pour.
Oui.
Personnellement, parce que je trouve que ça pourrait donner aux gens l'occasion de lire les programmes, de se renseigner, enfin s'ils sont obligés d'aller voter.
Mais il faut des contreparties de votre point de vue ?
Une reconnaissance du vote blanc.
Clémence Guettet, est-ce que... Alors, je lis le chapitre 4, point 4, chapitre 1, démocratie, institution, république permettant l'intervention populaire, donner le droit de vote à 16 ans, mettre en place le vote obligatoire, mais oui, il y a des contreparties, reconnaître vote blanc et instaurer un seuil de vote exprimé pour valider une élection. Mais vote obligatoire.
Oui. Déjà, merci à Catherine pour sa question. Je pense que c'est un questionnement plus large sur comment on refait démocratie, comment on refait corps collectif et citoyen dans notre pays. La mesure centrale que vous n'avez pas évoquée, pour nous, c'est le passage à la 6e République avec une constituante. C'est une série de mesures qui se tient dans son ensemble. Vous le disiez, la contrepartie du vote obligatoire pour nous, c'est la reconnaissance du vote blanc. Mmh. C'est dire aux gens, il y aura possibilité d'exprimer et de reconnaître le fait que s'il n'y a pas d'option politique qui vous satisfait, le vote blanc est pris en compte dans les résultats.
Et la reconnaissance d'un seuil, ça veut dire qu'au régional et au départemental, il y a un paquet de gens qui ont été élus qui ne l'auraient pas été selon ces règles-là.
En l'occurrence, on aurait aussi instauré le vote obligatoire, donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais si vous voulez, le vote obligatoire, le RIC, la possibilité de révoquer des élus...
Référendum d'initiative citoyenne.
Exactement, révoquer des élus, proposer des lois, abroger des lois, le droit de vote à 16 ans. À 16 ans, on peut travailler, mais on ne peut pas exercer son droit démocratique. Tout ça, ce sont des mesures pour redonner confiance, pour dire aux gens aussi qu'ils auront des outils de contrôle sur leurs élus. Ce qu'on veut, c'est en finir avec... une campagne qui est menée âprement par des candidats une fois tous les 5 ans, et ensuite blanc-seing, conseil de défense sanitaire, décision à huis clos, monarque présidentiel qui décide de tout pour tout le monde. Nous, on veut que les élections se soient avec le peuple.
Le référendum d'initiative citoyenne, quel seuil de signature de citoyens pour déclencher ce référendum ? Aujourd'hui, il y a le référendum d'initiative partagée, il faut en gros 5 millions de signatures pour mettre
c'est
un sujet
sur... C'est
très
dur.
Combien alors ?
Alors, nous, on va étudier plusieurs hypothèses. On avait parlé d'un million de signatures à un moment donné. Les grosses pétitions, par exemple, sur l'inaction climatique, ont atteint ces seuils-là. Le but, c'est que ce soit possible, mais qu'il faille une mobilisation populaire pour montrer qu'il y a une vraie attention à certains sujets. Et ça, on le déclinera dans une série de plans, j'en profite pour le dire. On ne s'arrête pas à ce programme. Il va y avoir une dizaine, vraisemblablement, de plans d'action gouvernementale pour préciser le calendrier de mise en œuvre et ce type de précision, notamment sur la 6e République et les outils de reconquête démocratique.
Jules au standard. Bonjour Jules.
Oui, bonjour.
Qui nous appelle de Vendée.
Oui, ma question est très simple. Donc, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, en cas de difficulté à rassembler, serait en mesure de s'effacer derrière une candidature commune ou est-ce qu'on doit s'attendre encore à un éparpillement des voix à gauche dès le premier tour ?
Clémence Guettet.
Merci Jules pour la question. C'est une question qu'on nous pose quand on va militer, essayer de convaincre sur le programme. J'en reviens à cet outil central. On est les premiers à proposer un projet présidentiel qui soit complet. Le but, c'est de dire, on met les cartes sur la table.
Vous dites comme les autres, oui, pas à l'unité, mais c'est nous qui restons.
Discutons de fond, en fait. Discutons de ces sujets.
Souhaitez-vous que la gauche présente une candidature unique, sondage Ifopierre dans le JDDU, candidature unique France Insoumise, PCPS, Vert, réponse des sympathisants de gauche. Oui, 70%. Et tous, vous vous asseyez là-dessus.
Et derrière qui ? Est-ce qu'ils ont précisé dans votre sondage ?
Non, mais candidature unique et personne ne veut la faire.
Nous, on a fait plusieurs propositions. Jean-Luc Mélenchon a tendu la main, il a proposé une fédération populaire, il a proposé de se rassembler autour de causes communes. À chaque fois, on a porte close. C'est étonnant parce que dès qu'on amène le sujet des discussions programmatiques, des discussions sur le fond, il n'y a plus personne. Que dit Anne Hidalgo, par exemple, sur le maintien dans la 5e République ? Elle est pour, nous, on veut la 6e. Qu'est-ce qu'elle dit sur le nucléaire ? Flou. Qu'est-ce que dit Monsieur Jadot sur, par exemple, les traités européens qui vont, on le sait, être des freins par rapport à la politique qu'on veut mener sur le protectionnisme ?
Il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas de gauche au second tour.
Nous, en tout cas, on est en campagne. On tend la main pour des discussions sur le fond. Jean-Luc Mélenchon s'y est dit prêt, il l'est.
Patrice au standard.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons, Patrice.
Il y a actuellement une outrecuidance des responsables politiques et du lobby nucléaire pour relancer la filière et à faire croire qu'un accident majeur est très très peu probable et à considérer que la gestion des déchets est quasiment réglée avec le projet CIGEO. Concrètement, est-ce que vous êtes prêt à arrêter ce fameux projet CIGEO qui est le dévoiement de notre démocratie par les mensonges de l'argent et quelles sont les propositions dans le projet Jean-Luc Mélenchon en termes d'énergie. Merci.
Clémence Guettet. Alors, petit 1, CIGEO, donc à Bure, on arrête le projet d'enfouissement des déchets
bien
nucléaires
sûr,
ou pas ?
Bien sûr.
On sort du nucléaire quand ?
Alors, on reprend le scénario Négawatt qui est sorti le mois dernier, qui dit maximum 2045, fermeture de tous les réacteurs en France. On sait qu'il va falloir du temps, nous on veut le faire le plus vite possible. On pense qu'il faut une politique volontariste pour plusieurs raisons. Un, c'est dangereux. Je vous ramène au lanceur d'alerte de Tricastin qui a parlé la semaine dernière d'une politique de dissimulation de ces incidents nucléaires. On sait que les centrales et les réacteurs vieillissants ne sont pas résistants au changement climatique. Soit parce que l'eau monte, soit parce qu'au contraire, sécheresse. 2003, la canicule, il y avait un quart des réacteurs en France qui étaient arrêtés. Donc,
2045, les énergies renouvelables sont suffisamment avancées pour prendre le relais.
100% d'énergie renouvelable à horizon 2050, en effet, oui.
Vous parlez de bifurcation écologique. Et le programme propose un plan massif d'investissement écologiquement et socialement utile. 200 milliards,
oui.
Clémence Guettet. Les dépenses d'Emmanuel Macron depuis le début de l'année, certains l'accusent de cramer la caisse, c'est un peu plus de 50 milliards. Vous êtes 4 fois au-delà. On finance comment ?
Alors, bon, il y a plein de sources de financement quand on veut trouver de l'argent.
200 milliards.
Bien sûr, mais bien sûr. Revenir rétablir l'ISF, 10 milliards. Le CICE, 20 milliards. Les niches fiscales polluantes, ça fait 36 milliards par an à peu près. La lutte contre la délinquance 66. Et l'évasion fiscale, 36 à 100 milliards selon les estimations.
Ah ouais, là, c'est très large.
Mais il y a plein de possibilités de trouver de l'argent pour refinancer nos services publics et faire la bifurcation écologique. Le tout, c'est de le mener de manière volontariste. Et ce que nous voulons faire, en plus, c'est une écologie qui soit populaire. C'est-à-dire que ce ne sont pas aux plus pauvres de pâtir de ces décisions. Il y a des riches et des très riches qui cachent l'argent, qui le mettent à l'étranger aujourd'hui et qui doivent financer ce projet.
Vous nous dites que vous trouverez 200 milliards. J'ai les deux programmes, celui d'il y a 5 ans et celui d'aujourd'hui entre les mains. Un gros changement à propos de l'Europe. Il y avait un chapitre entier qui était consacré il y a 5 ans, qui était titré « Sortir des traités européens ». Il n'en est plus question. C'était une bêtise ?
Alors, vous avez peut-être mal lu la nouvelle
version. Sortir des traités européens, ça y est plus.
Plan A, dans la nouvelle version, nous ferons de nouveaux traités européens. Pourquoi ? Pour qu'ils soient compatibles avec un mieux-disant social et écologique.
Voilà, il est question de réformer, mais plus d'en sortir.
Ceux qui disent aujourd'hui qu'on pourrait appliquer un programme tel que le nôtre avec l'accord de l'Union européenne se trompent ou mentent. Au choix. Nous avons une série de rapports de force qui vont devoir être menés. Je vous prends qu'un exemple. La relocalisation de l'agriculture, par exemple. Quand on dépose des amendements pour que dans les cantines, nos gamins soient nourris avec les productions agricoles qui sont autour, on s'expose à contrevenir aux règles de l'Union européenne, par exemple, pour la libre concurrence, le libre marché. Nous appliquerons notre programme quoi qu'il arrive, avec des opt-out, avec la politique de la chaise vide, avec le fait de remettre en cause notre contribution au budget de l'Union européenne.
Mais on ne parle plus d'en sortir, on est bien
beaucoup
d'accord.
Beaucoup de pays le font déjà. La
Est-ce
règle des 3%.
En un mot, on peut parler d'une Europe austéritaire, alors qu'il y a eu un grand plan à 750 milliards d'euros.
Mais justement, c'est un très bon moment.
En un mot, je suis en train de me faire gronder par tout le monde là.
C'est,
avec
un,
ma question.
C'est un très bon moment pour reprendre la main sur la politique française au sein de l'Union européenne, si j'y arrive. Parce que ce sera la présidence française à ce moment-là, et parce que c'est le moment où les règles austéritaires qui ont été remises en cause pour répondre à la crise sanitaire vont être réintroduites. Nous
que
dirons.
Vous dites, on verra.
Nous dirons que nous espérons que nous pouvons en sortir. Ce dogme, il n'a pas de sens. On y a déjà désobéi 171 fois en 10 ans. D'autres pays que la France, sans aucune sanction. C'est possible,
merci.
On va le faire.
Merci Clémence Guettet. L'avenir en commun, le programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, est en librairie pour ceux qui veulent se pencher dessus. 13h46.